Merci beaucoup pour ce temps d'adoration, de reconnaissance pour notre Seigneur qui a fait tant de bonnes et belles choses pour nous, aussi bien dans le passé que dans notre vie de tous les jours. Nous poursuivons donc la méditation de l'épître de Jacques. Nous avons commencé la semaine dernière avec la première partie du premier chapitre de Jacques, l'épître de Jacques, et aujourd'hui nous allons aborder la seconde partie de l'épître de Jacques, la seconde partie du premier chapitre bien entendu, donc chapitre 1, et nous lirons à partir du verset 12 jusqu'à la fin. Jacques, l'épître de Jacques, chapitre 1, verset 12 jusqu'à la fin. Heureux l'homme qui endure la tentation, car après avoir été mis à l'épreuve, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal, il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté parce que sa propre convoitise l'attire et le séduit. Puisque la convoitise, lorsqu'elle l'a conçue, enfante le péché, et le péché parvenu à son terme engendre la mort. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Tout don excellent, tout cadeau parfait vient d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Il nous a engendrés selon sa volonté, la volonté de sa volonté, par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme, soit prompt à parler, à écouter, lent à parler, lent à la colère. Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est pourquoi, rejetant toute souillure, tout excès de méchanceté, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Pratiquez la parole. Pratiquez la parole et ne l'écoutez pas seulement en vous abusant par des faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la pratique pas, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va, oublie aussitôt comment il est. Mais celui qui a plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui persévère, non pas en l'écoutant pour l'oublier, mais en la pratiquant activement, celui-là sera heureux dans son action même. Si quelqu'un pense être religieux sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. La religion pure, sans tache, devant Dieu le Père, consiste à visiter les orphelins, les veuves, dans leur affliction et à se garder des souillures de ce monde. Jusqu'ici, la parole écrite de notre Seigneur. Résistance ou soumission. Êtes-vous plutôt résistant ou soumis? Je vais encore aller plus loin dans la provoque. Êtes-vous des insoumis ou des soumis? Êtes-vous insoumis ou soumis? Que choisir? La résistance, la soumission? Autant que chrétien, Jacques nous donne quelques éléments pour apporter des réponses à cette question dans le texte justement que nous venons de lire. Mais avant cela, Avant de tenter de répondre à cette question, j'aimerais d'abord donner la structure un peu de ce passage, puisque nous n'aurons pas le temps de l'aborder, il est tellement riche, j'aimerais néanmoins donner la structure de ce passage. Il y a trois thèmes qui reviennent dans ce texte. D'abord, il y a le thème de la tentation et de l'épreuve, et c'est les versets 12 à 18. Ensuite vient celui de la sagesse et l'utilisation de la parole, ce sont les versets 19 à 21, et enfin, nous avons le thème des relations interpersonnelles, les relations interpersonnelles où Jacques invite à la mise en pratique de la parole de Dieu, à visiter l'orphelin, la veuve, ceux qui sont dans le besoin. L'épître de Jacques peut paraître, à vrai dire, aux premiers abords, comme une épître qui traite de sujets un peu divers, rassemblés d'une manière aléatoire. Mais en regardant de très près, on se rend compte que ce n'est pas du tout le cas. On se rend compte qu'il y a trois thèmes qui reviennent régulièrement, et ce sont les thèmes qui sont revenus aussi dans cette péricope, dans ce texte que nous venons de lire. C'est celui de l'épreuve et de la tentation, celui de la sagesse et l'utilisation de la parole, encore des relations interpersonnelles et tout particulièrement les relations entre les riches et les pauvres. Et si vous êtes intéressé pour ces questions d'introduction sur l'épître de Jacques, je vous renvoie à la Bible d'études Semer. L'introduction de cette Bible, elle est vraiment remarquable. Elle est faite par Jacques Buchold, qui est le prof du Nouveau Testament à la faculté de Vaux-sur-Seine. Et elle est vraiment très claire, très concise. Et l'avantage, c'est qu'elle ne comporte pas 20 pages, ni 10 pages d'ailleurs, même pas 5, juste 2 pages. Donc ça, je dis ça pour les paresseux, mais je sais que nous n'avons pas ici. Donc elle a 2 pages d'introduction, ça se lit rapidement, et vous aurez une idée claire sur cette épître. Ces 3 thèmes reviennent régulièrement donc dans cette épître et dans la péricope que nous venons de lire. Et justement, comme ces thèmes sont tellement pratiques, que la tentation de considérer que cette épître de Jacques est une épître que pratique est très grande. Il est vrai que l'épître de Jacques traite des sujets très pratiques de la vie courante de l'Église. Mais je ne pense pas qu'elle soit un manuel de vie chrétienne. Et elle ne traite pas seulement des questions pratiques. Vous savez, elle aborde aussi des questions théologiques très profondes. Et je pense ici en particulier à la deuxième partie du chapitre 2, où il traite de la relation entre la foi et les œuvres. Et là, il y a vraiment un développement théologique très très important, et il me semble qu'on ne pourrait pas voir simplement sous l'angle pratique pour mettre en pratique. Voilà, ça c'est pour les questions un peu d'ordre général, et maintenant j'aimerais revenir à notre péricope, comme on ne l'abordera pas dans son ensemble, j'aborderai juste 2 questions. J'aimerais revenir donc à cette question de résistance ou soumission. Face à la tentation, Jacques nous dit, face à l'épreuve, Jacques nous dit la résistance. Il nous invite à tenir bon, à ne pas céder, à aller jusqu'au bout, avec l'aide du Seigneur, bien sûr. C'est un appel à la résistance, et cet appel est aussi valable face à la tentation que face à l'épreuve. Le terme d'ailleurs employé pour parler de la tentation est le même pour évoquer l'épreuve. C'est le même terme qu'on utilise dans le Nouveau Testament pour la tentation et pour l'épreuve. Ce qui différencie la tentation de l'épreuve, c'est le fait que la tentation souvent nous conduit à désobéir au Seigneur, et l'épreuve, normalement, nous donne l'occasion de nous approcher du Seigneur et de progresser en sanctification, sans laquelle, nous dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, personne ne verra le Seigneur. Concrètement, la même réalité peut être à la fois tentation et épreuve. La même expérience peut être à la fois tentation et épreuve. Elle peut être tentation, la tentation qui vient du diable pour nous éloigner, nous faire trébucher, nous faire tomber dans le péché, désobéir au Seigneur. Mais elle peut être aussi une épreuve dans laquelle nous sommes, une occasion nous est donnée pour grandir en maturité, grandir dans notre relation avec le Seigneur, pour tenir bon, progresser, tenir bon jusqu'au bout, progresser dans notre perfectionnement. Le livre de Job est très instructif à cet égard, et Jacques le cite d'ailleurs à la fin de cet épître. Il nous renvoie au livre de Job en nous disant de suivre son exemple, lui qui a persévéré jusqu'au bout. C'est dans Jacques chapitre 5. Dans les versets 12 à 15, Jacques précise quand même, dans notre texte, qu'il s'agit bien de la tentation. Que dit-il au sujet de la tentation? La première chose que Jacques souligne à ce sujet, vise à nous encourager, à encourager les chrétiens à tenir bon. C'est au verset 12, il dit « heureux l'homme qui endure la tentation, car après avoir été mis à l'épreuve, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. » Jacques annonce clairement la récompense qui attend celui qui tient bon jusqu'au bout. celui qui tient bon jusqu'au bout. Parce que ce n'est pas facile de tenir bon, parfois, face à la tentation, comme face à l'épreuve d'ailleurs. La récompense est simple, c'est la couronne de la vie. Cela est bien conforme à ce que Jésus lui-même avait annoncé, ce que Jésus lui-même avait enseigné dans son discours, son dernier discours sur la fin des temps, dans l'évangile de Matthieu. Vous savez, il y a 5 discours et le dernier est consacré à la fin des temps. Et dans ce discours-là, Jésus dit très clairement, il y aura des temps difficiles qui vont venir. Et il déclare que ce sera pour beaucoup une occasion de chute. Ils se trahiront, ils se haïront les uns les autres, etc. Il dit même plusieurs faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de gens. Et en raison des progrès de l'iniquité, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'au bout, jusqu'à la fin, sera sauvé. Matthieu chapitre 24. Et les questions de persévérance jusqu'à la fin. C'est aussi ce message que le Seigneur va rappeler à la fin de l'Apocalypse. Dans ces épîtres qui sont envoyés aux 7 églises de l'Asie mineure, le Seigneur rappelle qu'il faut persévérer jusqu'au bout. Il faut tenir, c'est celui qui vaincra, celui qui persévérera jusqu'au bout. Jacques nous invite donc à porter notre regard vers la fin de la course pour pouvoir résister au présent. Il nous invite à regarder le long terme pour pouvoir résister à court terme. Pour pouvoir résister donc la tentation présente, les difficultés d'aujourd'hui. Regardez plus loin pour mieux marcher, pour mieux conduire au plus près. C'est ce que, je pense, les moniteurs de l'auto-école ne cessent de rappeler à leurs candidats pour avoir leur permis. Hein. Je ne sais pas si notre frère Philippe Adelaide ou Liézide sont parmi nous, mais c'est la chose qu'on rappelle. Au début, quand on commence la conduite, en attendant, on a tellement peur qu'on commence à regarder juste à côté. Et vous avez le moniteur qui nous dit « Non, il faut regarder plus loin, plus loin, plus loin. » Parce qu'en regardant plus loin, on conduira très bien. Souvent, d'ailleurs, ceux qui causent problème sur la route sont ceux qui regardent juste à côté de leur voiture et l'ignorent complètement ce qui se passe devant. Jacques nous invite à regarder plus loin. Regarder plus loin pour mieux tenir aujourd'hui, pour tenir bon jusqu'au bout. C'est la première chose que Jacques nous invite, il nous dit sur la tentation, nous invite à regarder et à faire. La deuxième chose que Jacques souligne au sujet de la tentation ou de l'épreuve vise à enlever toute forme de malentendu que nous pourrions avoir lors de ces tentations ou lors de ces temps d'épreuve, lors de ces temps difficiles. Il dit au verset 13, Dieu ne peut être tenté par le mal, il ne tente lui-même personne. Dans les temps d'épreuve, parfois de violentes tentations, le risque d'accuser Dieu est très grand, même pour les croyants et pas simplement pour les non-croyants. Certaines épreuves ou tentations sont tellement fortes que nous nous sentons faibles, nous sentons complètement démunis, sans aucune force. Et dans ces temps-là, la tentation de rejeter la faute sur Dieu est réelle, y compris pour nous croyants. Mais nous ne devons jamais oublier ce que Jacques nous dit ici, même dans ces moments exigeants. Le Seigneur ne peut être tenté par le mal, il ne tente lui-même personne, nous dit Jacques. Et c'est quelque chose que nous devons intégrer en nous, maintenant que nous nous trouvons dans les moments faciles, pour pouvoir faire face lorsque les moments difficiles frappent à la porte. Aussi difficile soit l'épreuve, notre épreuve, aussi difficile, aussi violente soit notre tentation, cela ne nous donne aucun droit, entre guillemets, d'accuser Dieu de notre malheur. De nos jours, on entend souvent, pas des croyants heureusement, les gens dire « Mais pourquoi Dieu a laissé faire des guerres? Pourquoi Dieu a laissé le mal frapper le monde? Pourquoi ceci? Pourquoi ceci? Pourquoi Dieu? Pourquoi Dieu? Pourquoi Dieu ?» Il m'est arrivé de dire à certains amis que j'aime beaucoup, qui ont un tel langage, « Mais vous faites des choses et vous dites « Pourquoi Dieu ?» C'est pas vrai. Au lendemain de la tuerie dans une école aux États-Unis, malheureusement maintenant c'est devenu tellement fréquent que je ne me rappelle plus laquelle, mais il y a à peu près un an de cela, on a interviewé une fille de pasteur en lui disant « Mais pourquoi Dieu a permis cette tuerie dans cette école aux États-Unis » La jeune fille répond simplement « Depuis des années, nous n'avons cessé de dire à Dieu « de demander à Dieu de quitter nos écoles, de quitter nos institutions, de quitter nos raisonnements, de quitter. Eh bien, comme un gentleman, il nous a quittés. Et voici le résultat. Si vous voulez savoir pourquoi les guerres, c'est simple. Il faut demander des comptes à ceux qui les déclarent. Si nous voulons savoir pourquoi les violences, il faut les demander à ceux qui sèment la violence. Pourquoi ils font cela ? Il est temps pour l'être humain de retrouver un petit peu la raison et d'arrêter d'accuser Dieu pour le mal dont, à vrai dire, il est le seul responsable. Pleinement responsable en tout cas. Même si ça vient du diable, il est pleinement responsable. C'est ce que Jacques explique dans les versets 14 à 15 au sujet de la tentation, et c'est la troisième chose qu'il nous dira à ce sujet. Jacques dit clairement que la tentation, c'est le fruit de notre propre convoitise. Et il prend le temps de nous expliquer comment le processus avance à cet égard. Il distingue trois phases. D'abord, il y a la phase de la séduction, c'est dans le verset 14. Il y a la phase de la conception, au début du verset 15. Et puis la phase de l'enfantement, à la fin du verset 15. La phase de séduction. Jacques dit, chacun est tenté parce que son propre désir, c'est par son propre désir qui l'attire et qui le séduit. C'est donc le désir qui est en nous, qui nous attire et qui nous séduit. Et de cette manière, il nous fait entrer de plein pied dans cette phase de séduction. Le terme employé pour parler de désir, là encore, n'est pas réservé exclusivement pour les mauvais désirs. C'est ce même terme qui est employé, par exemple, pour désigner le désir pur et intense qui est en Christ. Donc, on ne peut pas dire un désir en Christ qui serait mauvais. Donc, pur et intense, hein, qui est en Christ. C'est dans Luc 22, par exemple, au chapitre 15. C'est aussi ce même terme qui est employé pour parler du désir de l'apôtre Paul, de marcher avec le Seigneur, son désir de revoir les chrétiens, et ainsi de suite. Donc, c'est un terme qui est employé pour parler des bons désirs. Mais dans notre texte, Jacques, il parle bien des mauvais désirs. Et c'est l'une des raisons peut-être pour laquelle certaines versions en français traduisent non pas le désir, mais par la séduction. Et là, par contre, le terme séduction, il a vraiment une connotation négative. La convoitise, excuse-moi, par la convoitise, et non pas par le désir. La Bible parle donc de ces mauvais désirs qui font partie des vices d'une personne livrée à elle-même, d'une personne livrée à ses penchants naturels marqués par le péché. L'apôtre Pierre évoque par exemple ses désirs, il classe ses désirs dans une liste où il évoque par exemple l'ivronnerie, les orgies, les buveries, l'idolâtrie, ainsi de suite, et c'est dans 1 Pierre au chapitre 4. Donc nous devons veiller à ne pas laisser ces désirs mauvais, impurs, nous introduire dans cette phase de séduction et de l'éloignement de la volonté de Dieu. Si nous laissons ces mauvais désirs agir librement en nous, cela nous conduira dans la deuxième phase de ce processus qui est la conception du péché. La convoitise conduit à la conception du péché. Ici, il y a un temps, plus ou moins court ou long, le temps d'une résistance possible pour nous. Lorsque le mauvais désir est là, nous pouvons céder, mais nous pouvons aussi résister, nous pouvons aussi l'empêcher, aller jusqu'à concevoir le péché en nous. Nous pouvons lui résister, le rejeter, nous pouvons mettre fin à cette course effrénée de nos mauvais désirs. Le mauvais désir en nous, parfois, va tellement vite, il est comme la fougue. Seule une vraie détermination, portée bien entendu par la grâce de Dieu, peut mettre fin à cette course. C'est ce que l'apôtre Paul écrit dans l'épître aux Titres. Il dit « La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété, au désir de ce monde. » C'est la grâce de Dieu qui nous enseigne à renoncer au désir de ce monde. À l'impiété au désir de ce monde et à vivre dans le siècle présent d'une manière sensée, juste et pieuse, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre Dieu, grand sauveur Jésus-Christ. Tite, chapitre 2, à partir du verset 11. Nous pouvons demander au Seigneur sa grâce. Seule sa grâce peut nous permettre de mettre fin à ce désir mauvais pour ne pas aller plus loin. Mais si nous n'arrivons pas à le faire, une fois le péché est conçu, l'enfantement devient inévitable. C'est ce que Jacques dit dans le verset 15. « Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché parvenu à son terme, engendre la mort. » Une fois que nous sommes arrivés à cette phase, la bataille est perdue. Nous pourrions nous dire « Nous avons opposé une résistance, mais il faut savoir que c'est une résistance molle qui n'a pas porté ses fruits. » Nous nous retrouvons en plein pied maintenant dans le péché qui est là. Que faire ? Que faire ? Sortir aussi rapidement que possible de cette phase. Sortir rapidement, aussi rapidement que possible. Comment ? Il y a une seule voie que la Bible ne présente. C'est la repentance. Une seule voie. Et la promesse de Dieu, dans l'épître de Jean cette fois-ci, à cet égard, c'est que si nous confessons notre péché, Dieu est fidèle, juste, pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute injustice. Sortez rapidement de cette situation. Dieu nous promet son pardon, quelle que soit la nature de notre péché. Il nous faut sortir rapidement. Mais en même temps, il me semble qu'il est important de prendre le temps de la repentance. Et on ne peut pas brader ce temps de tristesse, des pleurs qui doit suivre notre péché. Parfois, on passe tellement rapidement, « Seigneur, pardonne-moi ce péché » comme s'il n'a pas existé. Et très franchement, on est un peu piégé aussi par l'ère informatique parce qu'il nous arrive d'écrire quelque chose et puis on fait effacer, c'est effacé. Et on repart à zéro. Et on pense que dans la vie avec le péché, c'est à peu près pareil. Mais ce n'est pas du tout pareil. Il faut sortir rapidement, mais il ne faut pas confondre rapidité et précipitation. Il faut prendre le temps de la repentance, de pleurer devant Dieu. Vaut mieux rester un temps de tristesse, de réflexion devant Dieu sur le désir que nous avons laissé cheminer en toute liberté en nous jusqu'à concevoir le péché, que de dire « Merci Seigneur, tu m'as pardonné » et Jean le dit d'ailleurs dans sa parole. Le temps de tristesse profonde est nécessaire pour une vraie repentance, pour un vrai départ. Mais il ne faut pas non plus rester éternellement dans cette phase. Il faut sortir de cette phase. Il faut saisir le pardon que le Seigneur nous donne. Il ne faut pas laisser l'ennemi continuer à nous garder sous cette emprise-là. Parfois, en effet, il nous arrive de continuer à nous accuser, même après avoir reçu le pardon de notre cœur, le pardon de notre Dieu. Notre cœur continue à nous accuser. Et là, il me semble qu'il nous faut aussi se rappeler de cette belle parole, toujours sous la plume de Jean, dans sa première épître au chapitre 3, il dit « Si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît tout. » Dieu a choisi de ne pardonner, et ce matin Muriel l'a rappelé, Christ a payé le prix à la croix. Ce n'est pas par ignorance, ce n'est pas parce qu'il ignore la gravité de nos actes. Non. En connaissance de cause, il sait tout, il connaît tout et il a décidé de nous pardonner. Il sait tout, il sait aussi de quoi nous sommes formés, dit le psalmiste. Il sait que nous sommes formés, il sait de quoi nous sommes formés, il se souvient que nous sommes que poussière. Psaume 103. Recevons donc avec assurance le pardon de Dieu après une vraie, réelle repentance de notre part et ne laissons ni l'ennemi continuer à nous accuser, ni notre cœur, ni d'ailleurs quiconque. Une fois le pardon est reçu, nous devons le garder et avancer parce qu'il y a un prix très cher qui a été payé pour cela et ce serait vraiment une offense vis-à-vis de notre Seigneur Jésus de continuer à douter du pardon reçu. La parole de Dieu nous équipe face à toutes sortes donc d'accusations d'où qu'elles viennent. Recevons l'assurance du pardon de Dieu. Voilà pourquoi donc il nous faut quitter rapidement cette phase de péché en prenant la voie de la repentance et en recevant le pardon de nos péchés. Chers frères et sœurs, face à la tentation, nous devons résister. Nous devons être des vrais insoumis face à la tentation. Comment le faire concrètement? Jacques nous exhorte à mettre fin à la tentation dès la phase de la séduction. Ne pas attendre la fin, ne pas attendre la phase terminale pour réagir. Mais si par malheur il nous arrive de nous laisser emporter jusqu'au bout, dans la tentation, là, nous devons revenir au Seigneur. Nous devons revenir au Seigneur pour demeurer avec lui. C'est en vivant dans l'attachement au Seigneur que, dans l'attachement au Seigneur, dans la résistance face à la tentation, que nous expérimentons vraiment cet état d'homme heureux, homme, femme heureux, évoqué au verset 12. Jacques commence « Heureux l'homme qui résiste à la tentation ». Heureux face à la tentation des résistants, nous sommes invités à la résistance. C'est cela qui fait de nous aussi des hommes, des femmes heureux et heureuses. Face à la tentation, donc Jean nous invite à résister. Face à la parole de Dieu, Jean nous invite à la soumission, à l'adhésion, à sa mise en pratique. Et c'est la deuxième chose que j'aimerais évoquer donc ce matin. Si pour la tentation, Jacques nous dit qu'il faut résister, pour la parole de Dieu, là au contraire, il nous invite à nous soumettre et à la mettre en pratique. Pratiquez la parole, verset 22. Ne l'écoutez pas seulement en vous abusant par de faux raisonnements. Pratiquez la parole, c'est l'écouter, c'est la recevoir, c'est la mettre en pratique. Jacques, en disant cela, une fois de plus, s'inscrit pleinement dans la même ligne, dans la continuité de l'enseignement de notre Seigneur Jésus-Christ, dans le serment sur la montagne. Et Jésus lui-même était le premier à dire à ses disciples, ce ne sont pas ceux qui me disent Seigneur, Seigneur qui vont entrer dans le royaume de Dieu, mais ce sont ceux qui font la volonté de mon Père. Matthieu chapitre 7. Jésus dénonce le fait de prétendre connaître le Seigneur, mais le connaître simplement d'une manière verbale. Cette connaissance-là ne suffit pas. Ce n'est pas la vraie connaissance du Seigneur. Il ne s'agit pas seulement de professer sa foi, même de connaître sa confession de foi. Même la confession de foi de tabernacle ne sauve pas. Il faut connaître le Seigneur lui-même. Et cette connaissance du Seigneur passe par sa mise en pratique. Aucune activité religieuse ne peut nous soustraire à l'obéissance de la parole de Dieu. On a beau exercer tous les dons extraordinaires dans l'Église, comme d'ailleurs dans hors d'Église. On a beau guérir, on a beau prophétiser, on a beau faire des miracles, on a beau faire tout ce qu'on veut, prêcher, enseigner. Mais cela ne nous soustrait pas à l'obéissance de la parole de Dieu. Ce qui est au cœur de l'Évangile, c'est l'obéissance à la parole de Dieu, c'est la soumission à la parole de Dieu. Nous ne pouvons pas dire, Seigneur, au dernier jour, nous avons prêché, nous avons fait ceci, cela, nous avons conduit même tout un peuple vers la repentance. C'est très bien, le peuple conduit vers la repentance ira dans la joie de son maître. Mais toi, qu'est-ce que tu as fait? Il est vrai, que les services que nous rendons sont précieux au Seigneur, et il ne s'agit pas pour moi ici de dénigrer tout l'engagement des uns et des autres, et pour avoir été comme un pasteur de l'Église, je sais l'implication de beaucoup d'entre nous et d'entre vous. L'auteur de l'Épître aux Hébreux, et j'aime bien cette parole, nous rappelle, Dieu n'est pas injuste au point d'oublier l'activité que vous avez déployée par amour pour les saints. Il dit, Dieu n'est pas injuste pour oublier votre service, le service que vous avez rendu ou que vous rendez encore. C'est Hébreux 6, verset 10. Mais nous devons être très clairs sur ce sujet. Ce ne sont pas les œuvres religieuses qui nous permettent de connaître le Seigneur ou d'appartenir au Seigneur. Ce ne sont pas ces œuvres-là. Parce que je vous promets que je connais, en dehors du milieu chrétien, beaucoup de personnes qui font des œuvres religieuses, parfois devant lesquelles je me sens très petit, qui me dépassent de très loin. Mais malheureusement, ces personnes ne connaissent pas encore le Seigneur. C'est l'obéissance, en tout cas pas le Seigneur Jésus, du moins le Seigneur Jésus évangélique, hein, j'entends bien sûr, ça veut dire annoncé dans l'Évangile. C'est l'obéissance à la parole de Dieu qui montre bien que nous connaissons le Seigneur. Reconnaître Jésus tel qu'il est, tel que l'Évangile le présente, c'est-à-dire Seigneur et Sauveur, implique naturellement, conduit naturellement à l'obéissance de sa parole. Nous ne pouvons pas dire Jésus est Seigneur si nous ne nous efforçons pas pour obéir à la parole de Dieu. La vraie foi en Jésus conduit à l'obéissance, à la soumission de sa parole. Elle n'a rien à voir donc avec une soumission servile qui est prônée aussi par certaines religions. Non, non, pas du tout. C'est une soumission joyeuse, c'est une soumission volontaire, c'est une soumission réfléchie, c'est une soumission active à la parole de Dieu. Mais néanmoins, c'est une soumission. Si nous disons qu'il est maître, notre Seigneur, il décide. Et il a décidé par sa parole. La vraie foi, donc, ne se contente pas de dire Seigneur, Seigneur, mais elle conduit à l'obéissance concrète de la parole. C'est ce que Jacques nous invite à faire. Il nous invite à mettre la parole de Dieu en pratique pour ne pas nous tromper nous-mêmes. Jacques fait clairement la différence entre celui qui écoute la parole de Dieu d'une manière insoumise, sans la mettre en pratique, et celui qui écoute la parole de Dieu d'une manière obéissante, d'une manière soumise. Il dit une écoute passive, insoumise à la parole de Dieu, elle est sans résultat, sans fruit. Elle ne sert absolument à rien et elle est comparée à un homme qui se regarde dans un miroir et une fois qu'il est parti, il a oublié complètement son visage. À quoi sert de se regarder dans un miroir si on ne corrige pas son visage et si on ne continue pas à prendre soin de son visage pour le reste de la journée? C'est pareil pour une écoute passive de la parole de Dieu. Elle ne sert absolument à rien. Elle ne sert à rien. Elle ne donne aucun repère, elle ne donne aucune perspective. Elle ne conduit pas, elle n'éclaire pas. Cette écoute ne nous rend pas du tout lucides ni sur nous-mêmes, ni et encore moins sur Dieu lui-même. Jacques nous invite à avoir une écoute obéissante à la parole de Dieu. La parole de Dieu ne doit pas donc rester une lettre morte dans la vie du croyant, dans notre vie de chrétien, mais elle doit être vécue, elle doit être incarnée dans ce que nous pensons, dans ce que nous disons, dans ce que nous faisons. Du moins, nous devons s'inscrire dans cette lignée-là. Après, bien entendu, il y a la place pour la progression. Et nous progressons jour après jour, fort heureusement. En dehors de cette écoute active, obéissante, nous nous trompons simplement nous-mêmes. Jacques nous invite à devenir des réalisateurs de la parole de Dieu, des faiseurs de la parole de Dieu. Car c'est ainsi seulement que nous pourrons connaître le vrai bonheur dont il est question au début de ce chapitre. Le vrai bonheur d'être heureux. Et d'ailleurs, à la fin, au verset 25, il qualifie vraiment heureux ceux, il emploie le terme de heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et la mettre en pratique. Pour un observateur extérieur, obéir à la parole de Dieu risque d'être trop contraignant. Ça risque de nous priver de tellement de joie dans ce monde. Souvent, quand on est jeune, on le pense un peu, mais à vrai dire, même après. On le pense un petit peu, même si on le pense un peu moins, mais on le pense quand même un peu. Obéir à la parole de Dieu, il y a tellement des interdictions, des choses, un cadre et tout. C'est ça ce qu'on pense. Mais Jacques ici, il nous dit non, pas du tout. Au contraire, si vous voulez être malheureux, n'écoutez pas la parole de Dieu. Mais si vous voulez être heureux, écoutez et obéissez à la parole de Dieu, à la loi de Dieu, la loi parfaite de Dieu. Pour le Seigneur, pour la Bible, un homme ne peut être heureux que dans le cadre que Dieu a posé pour lui. Et ce cadre nous a été révélé dans la Bible. C'est dans ce cadre-là qu'il peut être heureux et pas en dehors. Il est vrai que pour être heureux, cela va nous demander des efforts. Pourquoi ? Pour plusieurs raisons. D'abord, à cause de notre propre nature, le péché qui frappe et qui compte, non seulement il est en nous, mais il continue à frapper à notre porte. C'est ça ce que dit le Seigneur, dans Genèse 4. Fais attention, car le péché frappe à ta porte. Nous avons les limites humaines. Il nous arrive parfois de vouloir faire le bien et c'est le mal que nous faisons. Vouloir faire, c'est dans Romains 7, hein. C'est la deuxième partie où Paul parle du conflit interne qu'il éprouve par moment. Donc, il dit vouloir faire le bien, il fait le mal, et vouloir éviter le mal, il évite le bien. Ça fait partie de ces limites que nous rencontrons, et vous pouvez vérifier bien sûr dans Romains 7 après. Pour la précision. Et il y a encore une autre chose qui nous rend l'obéissance à la parole de Dieu un peu parfois pénible, entre guillemets, c'est notre paresse sur tous les plans spirituels, mais aussi intellectuels, notre paresse de veiller Jésus dit à ses disciples, veillez, priez pour ne pas entrer en tentation. Veillez et priez. Notre paresse parfois nous empêche de veiller dans la prière pour ne pas entrer en tentation. Obéir à la parole de Dieu, en effet, nous engage à mettre tous nos efforts, les ressources, à mettre tout en œuvre sous la direction, bien sûr, du Saint-Esprit, avec l'aide, bien entendu, du Saint-Esprit. Mais cela nous engage passer de la parole de Dieu à des actes concrets, la traduire concrètement dans notre vie, demande-nous de l'énergie et de la consécration et parfois beaucoup de violence contre nous-mêmes. Mais il faut noter que l'effort n'est pas en contradiction avec le bonheur. Jamais. Souvent, on a essayé de faire croire que le vrai bonheur, c'est de ne faire aucun effort. C'est archi faux. L'effort va au contraire avec la joie, le bonheur, de la satisfaction. Plus que nous mettons d'efforts pour atteindre un objectif, plus que nous sommes heureux de voir l'objectif atteint. Mais si nous ne dépensons aucune énergie pour réaliser un projet, le jour où le projet se réalisera, nous ne nous rendons même pas compte s'il a été réalisé ou pas. Il nous faut retrouver le goût de l'effort et faire attention à toute forme de paresse. Et franchement, hélas, ça nous frappe beaucoup en tant que chrétien. Et par moments même, je me pose la question, sur ce point précis, si les gens du monde ne sont pas beaucoup plus lucides que nous sur leur détermination. Lors d'un débat sur le Forum Veritas qui oppose notre frère Henri Blocher avec le philosophe Jean-Marie Frey sur le thème « C'est quoi une vie réussie ?», notre frère Henri Blocher termine ce débat que vous pouvez voir sur YouTube, hein, dans les Forums Veritas de GBU. M. Blocher conclut simplement en rappelant qu'une vie réussie comporte aussi sa part de sacrifice. Et pour appui, bien sûr, il évoque la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus a obéi à Dieu parfaitement au commandement de son Père. Il s'est donné totalement, il s'est soumis à la parole parfaite de Dieu, de son Père. Et il a pu affirmer à ses disciples en disant « J'ai obéi parfaitement au commandement de mon Père ». C'est au chapitre 15 de l'Évangile de Jean. Et pourtant, cette vie, donc d'obéissance parfaite, de vrai bonheur, cette vie comporte aussi son lot de sacrifices. C'est une vie exigeante, une vie qui n'est pas fondée sur la facilité, sur le laisser-aller. Voilà pourquoi une vie réussie, une vie selon l'Évangile, une vie de bonheur, n'est pas synonyme d'une vie facile, une vie où, si vous me permettez l'expression, on se la coule douce. C'est une vie exigeante qui a sa part de sacrifice. Obéir à la parole de Dieu, nous soumettre à la parole de Dieu est la seule voie du bonheur selon la Bible. Certes, c'est une voie exigeante, mais elle est unique, il n'y en a pas d'autre. C'est la seule voie. Jésus le rappelle, large est le chemin, large et spacieux le chemin qui mène à la perdition, mais le chemin qui mène à la vie, il est étroit. Il y a même peu qui peuvent entrer. Matthieu 7. Faisons donc attention à ce que nous entendons. Jacques nous invite donc à nous soumettre à la parole de Dieu. Il nous avertit sur l'inutilité d'une écoute passive de la parole de Dieu. Elle ne sert absolument à rien. À nous donc de faire le choix d'écouter la parole de Dieu pour la mettre en pratique, sachant que cela nous demandera d'efforts, ou bien l'écouter sans la mettre en pratique, et pire encore, l'oublier, comme ce monsieur qui oublie son visage une fois qu'il est éloigné du miroir. Soumettre à la parole de Dieu, obéir à cette parole, n'est pas une option dans la vie chrétienne. Souvent, on entend des gens, en tout cas lorsqu'on faisait un peu le stand d'évangélisation, il m'est arrivé de croiser des gens me dire « je suis chrétien mais non pratiquant ». Bon, avec le sourire, j'accepte, et je chemine avec eux, je discute avec eux. Mais très franchement, là en Église, il n'y a pas de chrétien non pratiquant. On pourrait avoir des fidèles non pratiquants dans d'autres religions, mais dans l'Évangile, il n'y a qu'une sorte de chrétien. Soit chrétien, soit on ne l'est pas. Donc, un chrétien, c'est implique automatiquement la pratique, l'obéissance à la parole de Dieu. Bien sûr, il y a la place pour la progression, hein, mais s'inscrire dans cette dynamique. Et cela est fondamental. Et ça n'existe pas, il n'y a pas une autre manière d'être chrétien. Résistance ou soumission, je répondrai résistance et soumission. Résistance et soumission, c'est le titre d'un ouvrage de Dietrich Bonhoeffer, le pasteur Dietrich Bonhoeffer, qui portait sur ses lettres et les notes de captivité qu'il avait écrites de 1943 à 1945, avant malheureusement d'être exécuté par l'armée nazie. Il nous faut donc garder cela. Contrairement au titre que j'avais mis, résistance ou soumission, il faut retenir le titre de Bonhoeffer, résistance et soumission. Résistance et soumission. Le tout est de savoir à quoi résister et à quoi se soumettre. Face à la tentation, il nous faut résister. Face à la parole de Dieu, il nous faut nous soumettre. C'est ce que Jésus a fait, c'est ce que nous sommes invités à faire. Amen.